podcast de Bien au Périgord. Entretien et réalisation, Suzanne Boireau-Tartara, septembre 2021. Fin du village ou ghetto rural? C'est la question posée dans l'ouvrage publié chez L'Harmattan par Olivier Chadouin, professeur de sociologie à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux, directeur du laboratoire Profession, architecture, ville, environnement du centre Émile Durkheim. Olivier Chadouin demeure en Périgord. Il n'a pas manqué de nous parler des liens possibles entre l'étude réalisée sur la bastide de Sainte-Foy-la-Grande et la ruralité en Périgord. Cette étude date de 2015, bien avant le mouvement des Gilets jaunes et la crise sanitaire que nous connaissons, et elle révèle déjà beaucoup de ce que nous avons repéré ensuite. Vers un rééquilibrage territorial en faveur de la ruralité.
En sciences sociales, dans la partie des sciences sociales qui s'intéresse aux questions de territoire, d'urbanisme, d'habitat, etc. Il y a un débat entre beaucoup de recherches qui ont été produites sur le phénomène de la métropolisation, dont on connaît très bien le fonctionnement aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que les métropoles, ben, on le voit, que ce soit à Bordeaux, Strasbourg, Lyon ou autres, sont des lieux qui polarisent et qui attirent toutes les richesses, hein, ce sont des lieux qui capitalisent d'une certaine façon, et de notre côté, on sait que beaucoup de territoires périphériques sont en déclin, alors de manière assez différenciée sur le territoire français, contrairement ce qu'on pourrait penser quand on parle de France périphérique au singulier, parce que voilà, entre un village du sud-ouest, qui est celui que j'ai étudié, ou une petite ville ou un village dans le nord-est de la France désindustrialisée, c'est pas du tout les mêmes situations, donc ça c'est important de le dire. Et donc on est un certain nombre de chercheurs, dont Guillaume Faburel, qui a bien voulu donner une préface à cet ouvrage, a essayé de vouloir ramener la recherche et les travaux des chercheurs sur la question des petites et moyennes villes, pas seulement parce qu'elles ont des problèmes, mais aussi parce qu'elles sont dotées de moins d'expertise, de moins d'argent, et qu'on pense aussi, alors ça par hypothèse, hein, parce que les chercheurs aussi ont des convictions au-delà des démonstrations, on pense aussi que le rééquilibrage territorial est une nécessité à venir, et que le modèle de développement métropolitain qui a maintenant une trentaine d'années, qui agglomère des richesses en attendant qu'elle ruisselle, parce que c'est un peu ça quand même qu'il y a dans cet esprit, n'est pas le meilleur des modèles.
Alors, la fin du modèle métropolitain?
Et puis on sait aussi, en économie urbaine, que tout cela fonctionne sur des cycles, et que le cycle du modèle métropolitain tôt ou tard prendra fin. On l'a vu un petit peu d'ailleurs avec la crise sanitaire, on le voit actuellement aux États-Unis, où les grandes villes, le cœur des grandes villes, d'ailleurs on appelle ça les villes donuts, se dépeuplent pour aller investir des petites villes, des moyennes villes, qui regagnent des habitants aux États-Unis, et on voit le phénomène commencer à se développer en Europe. Alors, c'est peut-être qu'une réaction conjoncturelle, hein, à la crise sanitaire, mais on voit que dans d'autres pays, ça s'installe assez durablement quand même.
Une étude de 2015, toujours d'actualité.
L'idée, quand on étudie comme ça un territoire, c'est d'obtenir une coupe en fait sur une situation, en se disant qu'est-ce qui fait un territoire et son développement, c'est qu'il est inscrit dans une trajectoire. C'est-à-dire, il y a un processus de développement. Là, moi, j'ai essayé de faire remonter, par exemple, les phénomènes de périphérisation de Sainte-Foy-la-Grande, qui est cette commune-centre, à leur début, aux années 60, pour essayer de comprendre dans quel processus long on se déplace, et d'essayer de faire une coupe là-dessus pour dire à un moment donné, voilà comment on peut étudier ce type de territoire, ces modèles de développement ou ces modèles de déclin, malheureusement, et essayer d'en tirer quelques conséquences et enseignements pour d'autres territoires, en fait. Donc l'idée, c'est pas d'étudier un territoire en particulier, mais c'est de faire de ce territoire un cas particulier du général, en fait. Un cas particulier qui peut venir éclairer le général et s'inscrire, évidemment, dans les débats qu'on a aussi aujourd'hui sur... qui ont largement été repris par le champ politique, hein, pour le pire et le meilleur, hein, comme c'est souvent le cas avec le champ politique, notamment les termes de France périphérique, de périphérie oubliée, etc.
Sainte-Foy-la-Grande, un modèle, un repère.
On peut tirer des enseignements, en tout cas, pour essayer d'éclairer d'autres situations. Parce que l'idée, c'est pas de faire une monographie ou une ethnographie pour chaque territoire, en disant chaque territoire est singulier, de les additionner comme ça, c'est quand même à un moment donné de se dire est-ce qu'il n'y a pas des constantes qu'on observe dans le développement. Là, on en observe quelques-unes hein, qu'on peut largement voir ailleurs, mais je ne suis pas le premier à l'avoir remarqué, hein. Notamment la mise en place de systèmes de déplacement rapide qui vont contourner les villes, là, un petit bout de rocade, la mise en place d'une galerie marchande qui vient, pas seulement un supermarché, mais surtout une galerie marchande qui vient concurrencer des pratiques urbaines et faire que des boutiques vont s'installer dans cette galerie et ne seront plus dans le centre. Un certain nombre de phénomènes comme ça qu'on connaît bien, qu'on voit ailleurs, qui ont déjà été bien décrits par d'autres, comme Olivier Rasmont, par exemple, qui s'inscrivent dans le temps long, mais qui posent tous la même question de savoir comment on va pouvoir repeupler ces centres aussi et faire qu'ils arrêtent leur dynamique de paupérisation ou de dégradation. Après, pour comparer avec la Dordogne, même si on en est près ici, c'est compliqué au sens où, là, pour le coup, sur Sainte-Foy, on a tous les attributs d'une commune qui pourrait être très touristique. C'est une belle Bastide du 13e, les plus beaux marchés de France. Voilà, il y a un certain nombre de choses. On est en bordure de rivière, c'est assez, assez joli. C'est pas loin de Bergerac non plus. Pour autant, le tourisme n'y a pas encore pris ses marques et son développement tel qu'il pourrait.
Un système territorial, un modèle mental de développement.
Alors ça, on peut l'attribuer aussi à la manière dont les villes se situent dans un système territorial. Ici, à Sainte-Foy, ce qui est particulier, c'est que, oui, on n'est pas loin du Lot-et-Garonne, on est juste en limite de la Dordogne, mais on est encore en Gironde. Et ça aussi, ça fait partie des éléments critiques. Je parlais de métropolisation tout à l'heure, en parlant des travaux de Guillaume Faburel. Il y a ce modèle métropolitain, c'est aussi un modèle mental de développement. C'est-à-dire que aujourd'hui, beaucoup de responsables économiques, d'élus, etc., ont en tête que le développement il se situe du côté des métropoles. Alors, une commune comme Sainte-Foy, qui pourtant est dans son fonctionnement, ses lieux de travail, échanges domicile-travail, etc., pas loin de Bergerac, se situe mentalement beaucoup plus par rapport à Bordeaux. Et en termes de développement, par rapport au modèle métropolitain, donc avec toujours le même modèle de développement. C'est l'idée que du coup, il faudrait avoir une route plus performante pour aller à Bordeaux, qu'il faudrait avoir des déplacements ferroviaires plus performants pour aller à Bordeaux, voir que les Bordelais viennent s'installer sur place, etc., sans pour autant considérer que la situation du territoire, elle n'est pas naturellement tournée vers Bordeaux, parce que la route, elle est compliquée. Il y a une cinquantaine de kilomètres, un peu plus même. C'est une route qui passe à travers les vignes, c'est pas simple, etc. Alors que Bergerac est vraiment pas loin. Mais quand vous discutez avec beaucoup de responsables politiques sur place, ils vous disent non, finalement, on va quand même pas se rapprocher de Bergerac parce qu'ils sont aussi pauvres que nous. En gros, c'est un peu ça. Donc il y a toujours ce réflexe d'essayer de se coller à ce modèle métropolitain qui est vu comme le modèle de réussite d'aujourd'hui. En fait. Mais je dis bien d'aujourd'hui parce qu'on sait que, comme tous les modèles, hein, il va prendre fin tôt ou tard.
Une étude sur une terre limitrophe comme un miroir pour la Dordogne.
De fait, on n'a pas affaire du tout à un modèle ou un potentiel de développement touristique comme ça peut être le cas sur la vallée de la Vézère ou la vallée de la Dordogne où sont concentrés énormément de sites qui permettent un tourisme vert, qui s'est implanté de longue date, qui est bien alimenté, avec une production gastronomique, etc. Enfin, voilà, il y a un capital réputation qui a été construit sur la Dordogne, sur ces parties de la Dordogne, en tout cas, qui est beaucoup plus mobilisable que sur Sainte-Foy, où il n'a pas vraiment été construit, finalement. Hein, puisque Sainte-Foy, c'est aussi vécu comme, pendant longtemps, et c'est encore le cas, d'une certaine façon, la ville-centre d'un territoire rural. Petite ville centre, parce que c'est une Bastide qui est relativement limitée, hein, c'est moins de 3000 habitants qui vivent dans la Bastide, mais bien équipée, avec une gendarmerie, deux collèges, un lycée, des commerces, voilà. Donc c'était le pôle de centralité de ce territoire rural. Voilà. Sauf que, évidemment, le pôle de centralité, maintenant, est largement questionné et entamé par sa périphérie, à tel point que l'équilibre entre les communes, c'est-à-dire cette commune centre qui est le point de centralité avec tous ses équipements publics et les communes périphériques qui sont des communes d'habitat, en fait, hein, d'habitat périphérique sous forme de maisons individuelles. Cet équilibre il s'est rompu au point qu'aujourd'hui, le pouvoir au niveau de la communauté d'agglomération, il est plutôt du côté des villes périphériques que de la ville-centre.
Et pour chaque périphérie, on trouve aussi une périphérie.
Et ça aussi, c'est un effet politique très important pour questionner ces territoires-là. C'est-à-dire que souvent, quand on parle de France périphérique, on pense aux travaux de Christophe Guilluy, qui sont très très larges, où il va opposer les métropoles, les quartiers populaires, puis la France périphérique. En réalité, y compris dans ce qui pourrait apparaître, vu d'avion comme ça, une France périphérique, c'est-à-dire Sainte-Foy, mais en fait, Sainte-Foy a elle aussi, ses problèmes de périphérie, puisqu'elle est concurrencée par une de ses périphéries à son échelle. Et ce n'est pas simplement la périphérie de Bordeaux. Alors que pour un Bordelais, Sainte-Foy, ça pourrait être vu comme la... ou pour un Bergeracois, comme une périphérie, Sainte-Foy, de Bergerac ou de Bordeaux. Or, on voit bien que là, il y a aussi des phénomènes de périphérisation et de concurrence périphérique qui se jouent à son échelle.
Une étude de terrain, une portée politique.
Ça aussi, c'est une des leçons de l'enquête ethnographique, c'est que quand on descend au plus près du terrain, on voit non seulement les phénomènes tels qu'ils sont conçus, pensés par les acteurs sociaux sur place, comment les gens saisissent ce qu'il se passe dans leur commune, mais aussi ça permet de relativiser des catégories trop générales qui sont aussi devenues... des catégories politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien que mobiliser ces notions de ruralité, de France périphérique, etc., c'est aussi d'emblée mettre un pied dans les questions politiques. Voilà. Là, il se trouve qu'en ce moment, je travaille sur l'analyse d'un concours photo qu'avait lancé l'Union régionale des CAUE en Aquitaine, dont le thème était « Ma ruralité heureuse ». Si on tape ruralité quand on fait les recherches Google, 90% des réponses qu'on a, c'est des portraits de politiques en déplacement, etc. Voilà. Alors, c'est vrai que cette question elle est devenue très politique aussi avec le tournant gilet jaune, en fait, avec la gilet jaunisation de la vie politique, qui a vraiment rendu visible ces questions-là. C'est devenu un champ concurrentiel dans le champ politique aussi, que de savoir comment on parle, ce qu'on fait pour ces territoires.
Bousculer les mécanismes en place.
Entre 2015 et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites hein, sur ces territoires-là. Il y a une prise de conscience qui maintenant est assez évidente. Il y a eu des politiques publiques mises en place. Hein. Il y a Action Cœur de Ville, il y a des politiques de revitalisation de centre-bourg, etc. Voilà. La question, c'est encore une fois une question aussi de qui peut porter ça. Puisque je disais tout à l'heure, les chercheurs sont peu mobilisés sur les petites et moyennes villes. C'est aussi le problème de ces territoires-là. C'est qu'ils sont mal dotés en compétences techniques et intellectuelles pour porter leur développement. C'est-à-dire que là, encore une fois, c'est un autre effet. C'est que dans la trajectoire de réussite d'un fonctionnaire territorial, par exemple, qui va s'occuper d'urbanisme et d'aménagement, il est beaucoup plus valorisant et valorisé de travailler dans une grande métropole. Et c'est le schéma d'évolution d'une carrière réussie. C'est un peu comme chez les enseignants, hein. Enfin, c'est pareil. Hein. On débute sa carrière dans les quartiers où on essaie d'attirer les enseignants par des primes, mais on l'a fini, si possible, à Louis-le-Grand. Quoi. Ben, c'est un peu la même chose. Et du coup, ça a des effets très concrets sur la capacité d'expertise et de mobilisation des expertises sur ces territoires-là, pour agir.
Études de terrain, mode d'emploi.
Alors, c'est une étude qui est faite clairement dans ce qu'on appelle, nous, la tradition ethnographique. Hein, c'est-à-dire qu'on commence par décrire et on commence par s'installer sur le territoire et rencontrer des gens. Donc, comme le ferait finalement un ethnologue hein, qui va travailler chez les Bororo ou les Nambikwara en Amazonie. On commence par lier connaissance avec une personne où on a un informateur qui introduit sur le terrain, puis on en rencontre une autre, puis une autre, et progressivement on comprend le fonctionnement de la vie locale. Voilà. Avec quelques éléments de méthode un peu récurrents, hein, c'est de lire la presse locale le plus possible, voire de regarder ses archives, d'essayer de comprendre où sont les oppositions entre les groupes sociaux qui existent sur le territoire, parce que c'est toujours là que se jouent des choses, quoi. Donc c'est pas d'essayer de donner un portrait uniforme, mais de voir aussi où sont les débats, pourquoi il y a des débats, pourquoi il y a des tensions, d'où ça vient, etc. Qui parle de quelle autre personne, comment, etc. Donc, c'est à la fois une situation d'enquête assez classique, qu'on contrôle quand même avec du quantitatif aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de débarquer comme ça sans savoir quel est le nombre d'habitants, les moyennes de revenus, etc. On contrôle avec ces données-là. Donc, c'est des enquêtes assez... assez agréable à mener parce qu'on va rencontrer beaucoup de monde, mais une des difficultés est quand même de ne pas se laisser happer par un des groupes sociaux sur le territoire. Un des avantages, c'est que là, c'est moins de 3000 habitants, c'est une petite commune. Très vite, tout le monde sait qu'il y a un sociologue qui se promène dans la rue, voire les gens veulent lui parler, quoi, parce qu'ils ont des choses à dire. Voilà. Donc, on essaie comme ça. Alors, moi, j'ai eu la chance aussi, en plus, de tomber sur quelqu'un qui était un peu une mémoire de la commune et qui était bouquiniste, qui avait sa boutique ouverte tout le temps, qui m'a permis de m'y installer. Et comme tout le monde passait lui dire bonjour et qu'il connaissait à peu près tout le monde, j'ai pu faire des entretiens avec beaucoup, beaucoup de gens. Reste une chose quand même, c'est que sur ce type d'enquête, il est facile d'avoir des entretiens... La première partie qu'on appelle institutionnelle ou classique, les présidents d'associations, les membres, etc. Évidemment, les élus, que ce soit de la communauté d'agglomération ou de la commune, voire députés. Ce qui est plus difficile, c'est de rencontrer les individus, les personnes qui ne sont pas habituées à parler. Et qui parlent pas facilement, qui sont là pour le coup sur ce territoire pauvre, les ouvriers, agricoles, employés, qu'il est difficile d'approcher. Voilà. Alors là aussi, il faut déployer des ruses, des parcours indirects. Là, par exemple, il se trouve qu'il y a une communauté d'origine marocaine qui vient à peu près toute de la même région au Maroc, qui est installée sur place depuis les années 60, qui trouve à s'employer dans les vignes, dans le maraîchage, etc. Il y a une épicerie qui est tenue par une dame d'origine marocaine, elle aussi, qui rend énormément de services à cette communauté, parce qu'il y a aussi une communauté de gens du voyage. Donc, beaucoup de gens aussi qui ne maîtrisent pas forcément l'écriture, qui ont besoin d'avoir des cartes téléphoniques, des services, etc. Et dans cette épicerie, cette dame, elle joue un vrai rôle social. C'est-à-dire qu'elle accueille les gens pour les aider à établir leurs courriers, leurs demandes, etc. Et du coup, à partir de cette base-là aussi, j'ai pu contacter, avoir des échanges avec ces populations-là. En plus, il se trouve que son mari est médecin dans l'hôpital de la commune, donc connu, etc. Donc ça permettait d'avoir une entrée qui faisait confiance en plus, parce qu'il y a aussi ça, quoi, quand on veut faire des entretiens, rencontrer les gens, faire en sorte qu'ils puissent parler de leur quotidien, de leur commune, ce qu'ils en pensent, comment ils vivent leur quotidien dans cette commune. Il faut aussi qu'ils puissent se sentir autorisés à parler.
Un même territoire, plusieurs visions de sa réalité.
Ce qui compte dans le développement d'un territoire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas forcément que la question des décisions politiques aussi. C'est la question des représentations du développement et comment ces représentations du développement elles sont portées par des groupes sociaux plus ou moins à même de les mettre en œuvre, en fait, de les faire porter ou de les porter elles-mêmes. Après, évidemment, ça se traduit aussi dans le champ politique, ces visions. Mais là, en l'occurrence, moi, j'ai repéré assez rapidement deux visions du développement, une vision très économique du territoire, portée notamment par le club des entreprises, puis une vision plus culture, tourisme, portée par un autre groupe social, qui a tenté une expérience de mettre en place un centre social, enfin qui a réussi d'ailleurs, et un centre d'aide, enfin une forme de tiers-lieu comme on en fait aujourd'hui, qui portait une autre vision. Donc ces deux visions étaient opposées. Il se trouve qu'aux précédentes, aux avant-dernières élections municipales, après une centaine d'années sur cette commune de tradition protestante de pouvoir socialiste, c'est une vision assez économiciste qui a pris la mairie. Avec une situation assez cocasse, puisque le maire, celui qui est devenu maire de Sainte-Foy, était le fils de l'actuel maire de la commune périphérique, un peu concurrente historiquement de Sainte-Foy, qui est Pineuil. Cette vision d'un développement très économique a été assez fortement portée. Avec en concurrence à côté la mobilisation de cet autre groupe social qui était plutôt sur une vision culturelle, etc. Cette tension a existé sur le territoire, explique peut-être aussi que des décisions se sont pas prises aussi, ou se sont prises dans un sens et pas dans un autre, etc. Parce que les choses sont pas toujours dans une logique où un politique décide et ça se fait. Il le fait aussi en fonction des tensions qu'il y a sur le territoire et des autres visions, parce qu'il est obligé de composer puisqu'il a un électorat. Et au final, aux dernières élections, c'est toute une partie du groupe, de l'autre groupe social, qui avec sa vision un peu plus culturelle, patrimoine, plutôt action sociale d'ailleurs aussi, hein, parce qu'il y a une vraie problématique d'action sociale sur ce territoire, qui a repris la municipalité en fait. Voilà. Donc ça se joue aussi, les décisions, elles se jouent dans ces tensions-là, capacité de mobilisation des groupes ou pas à prendre des décisions par rapport au développement du territoire.
Pas de grand remplacement dans la population rurale.
Ce qui est particulier, là encore une fois, on en revient au modèle de développement métropolitain qui est dans les têtes et qui explique beaucoup, c'est que dans la vision très développement économique, il y a cette idée qu'il faut faire venir d'autres populations que celles que l'on a sur place. Alors ça, c'est très très compliqué, parce que à un moment donné, lorsqu'on est un élu, dire que le bon développement passe par le fait de finalement, d'une certaine façon, remplacer un peu une population qu'on a parce que on trouve qu'elle n'est pas forcément la plus apte à porter du développement économique, c'est un peu difficile, surtout sur un territoire qui est déjà relativement pauvre. Comment faire pour attirer notre vision de développement économique? L'optique qui a été prise par l'autre groupe a été de dire, mais il faut aussi qu'on compose finalement avec les caractéristiques des groupes qui vivent déjà là. Voilà. Qui n'exclut pas l'idée de faire venir d'autres populations, mais avec un autre discours, qui est plus un discours assez classique aussi, de mixité, etc. Mais en se disant, mais finalement, on a sans doute aussi une population à maintenir sur place et dont on doit améliorer les conditions, parce que de toute façon, on ne va pas la remplacer. Voilà. Et ça, c'est des éléments qui comptent aussi dans l'équilibre des tensions. Après, il n'est pas du tout exclu qu'au prochain tour, la roue tourne encore et que ça soit encore une autre vision du développement.
La position territoriale sous-tend le développement.
Le problème pour ce territoire, enfin on lui souhaite de trouver la sortie, c'est de retrouver la bonne pente de développement, et ce qui suppose une vraie réflexion sur sa situation territoriale. Enfin, ça c'est un peu une des leçons moi que je tire de cette enquête, c'est que tant que on regarde que vers le développement métropolitain en se disant est-ce qu'on pourrait pas nous aussi avoir plus de liaisons parce que c'est là qu'est toute la richesse, etc. Et qu'on regarde pas la réalité de sa situation territoriale, c'est-à-dire sa place dans une géographie, les échanges économiques qu'on peut avoir, la singularité du territoire qui est la sienne ou pas, etc. Tant qu'on essaie d'inventer en référence à ailleurs, ça a du mal à prendre.
Quels enseignements peut-on tirer pour d'autres territoires ?
Commencer à chercher les solutions, c'est partir dans le champ de l'action publique, en fait. Voilà. Alors évidemment, il y a des choses qui vont se faire toutes seules, ça c'est clair. Il y a déjà des choses qui vont se faire toutes seules. J'évoquais tout à l'heure les effets de la crise sanitaire et le retour vers les petites et moyennes villes qui s'est déjà amorcé. On ne sait pas quelle ampleur il aura, mais c'est déjà un phénomène. Ensuite, il y a un autre phénomène. Alors, pour Périgueux, c'est assez clair. Hein, c'est la concurrence périphérique qui est assez terrible, même visuellement, quoi, en termes de paysage. Hein, quand on pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur des éoliennes, si vous prenez conscience de ce que c'est qu'un paysage périphérique comme celui de Boulazac. Je pense que ça aussi, là, encore une fois, c'est comme pour la métropolisation. C'est un modèle de développement. Et ce modèle de développement, aujourd'hui, il est largement questionné. C'est-à-dire qu'on ne va pas continuer à faire des hangars décorés et des boîtes de toutes les couleurs en sortie de ville, en entrée de ville, ad vitam aeternam. À un moment donné, ça va s'arrêter pour plusieurs raisons et qu'on connaît déjà bien. Il suffit de taper sur votre barre Google Death Mall pour avoir une collection de... Les malls, c'est les grands supermarchés aux États-Unis, hein, avec galeries, etc. Et aujourd'hui, c'est devenu un art photographique d'aller photographier ces friches qui sont complètement abandonnées. On sait qu'il y a toute une génération, moi je le vois avec mes étudiants, qui ne va plus aller consommer comme consommait la génération des baby-boomers, c'est-à-dire le samedi après-midi avec le caddie à remplir chez Auchan, Carrouf ou autre, mais qu'on est sur d'autres modèles de consommation plus proches, plus locales, avec moins de déplacements, peut-être moins de stock, etc. Donc ça, il y a toute une génération qui va consommer différemment, donc du coup, je ne suis pas sûr qu'on puisse continuer à alimenter cela. Et puis, il y a aussi tout simplement, et ça, la crise sanitaire l'a très, très bien montré, c'est que le e-commerce marche très, très bien. Et que là aussi, le changement, il va se mettre en place tout seul du fait de la rationalité du commerce. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des magasins qui coûtent cher avec une maintenance, etc., aller consommer en drive, c'est beaucoup plus simple. Et beaucoup de gens l'ont découvert à l'occasion de la crise sanitaire, mais voilà.
Des commerces et des friches, changement de mode de consommation.
Donc ça, ces effets-là, ils vont se faire sentir à un moment donné. Et bon, le drame, c'est qu'on risque d'avoir, à la sortie des villes, des friches, quoi. Alors sur Seine-Foy, ça s'est produit comme ça aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un supermarché qui était en place. Mais dès lors que la rocade a été mise en place, ben, le flux, puisque le commerce, le principe du commerce, c'est de se nourrir de flux et de places de stationnement. C'est no parking, no business, et puis de la mobilité. C'est-à-dire qu'on s'installe là où passe le maximum de gens, c'est logique. Et donc le Leclerc s'est déplacé, et il a laissé une immense friche pour faire un Leclerc tout neuf avec une galerie marchande, des panneaux solaires sous lesquels on peut s'abriter sa voiture, etc. Voilà. Donc c'est vrai que pour si on prend une agglomération comme Périgueux, on peut effectivement pour l'avenir se dire que il y a aussi des choses qui vont se faire toutes seules. Puis c'est vrai qu'on a quand même des modèles de développement. Alors là, c'est un sujet purement local, c'est Périgueux, mais c'est vrai que j'y suis passé il n'y a pas longtemps. L'ancien supermarché qui est devenu d'ailleurs le siège, c'est significatif, un des sièges des Gilets jaunes pendant la crise des Gilets jaunes, ça doit être une friche qui a 25 ans ou 30 ans. Et à côté de ça, on continue d'en construire ailleurs. Et donc il y a des choses qu'on ne comprend pas vraiment. On se dit, mais il y a une valeur du foncier, il y a une valeur à construire, et là, on a une friche, et on fait d'autres choses encore ailleurs, et on continue à développer en périphérie.
Ramener la vie dans les centres-bourgs.
Il y a sans doute aussi le modèle d'habitat. C'est-à-dire que le modèle de l'habitat individuel n'est pas garanti non plus qu'il continue à se développer encore sous cette forme-là. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des volontés de retour vers des centres-bourgs, de revitalisation de centres-bourgs. Moi, j'ai des collègues qui travaillent dans le Puy-de-Dôme, à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand, travaille énormément là-dessus, sur la revitalisation des centres-bourgs, comment on fait pour faire en sorte que dans un centre-bourg de petits villages ou autres, en l'occurrence en Auvergne, on puisse retrouver des qualités qui sont les qualités de l'habitat individuel que recherchent les gens, en fait, hein, la maison avec un jardin, etc., mais dans une vie de centre-bourg, voilà. Parce que ça, c'est possible, en fait. Et on verra ce qu'il en est des jeunes générations, des prochaines. Mais il y a aussi un autre phénomène qui est assez global, mais qui va se faire ressentir, c'est que toutes les maisons qui ont été construites dans les années 60 par les baby-boomers, qui vont être bientôt à la revente aussi, Il va falloir les réhabiliter, il va falloir faire quelque chose, ou ça va devenir des friches, et continuer à construire d'autres maisons individuelles en empiétant sur des territoires périphériques et en empiétant aussi sur la nature, hein, parce que voilà, maintenant on a des sangliers qui viennent en ville, c'est parce qu'ils n'ont plus de place dans la nature. Ça ne va pas pouvoir durer non plus éternellement, d'autant qu'on a ce double phénomène. On a une génération baby-boomers qui était une génération de croissance démographique qui va laisser beaucoup de maisons vides à la vente, et en même temps, on a une décrue démographique qui est en train de se mettre en place et qui visiblement devrait s'accentuer même, enfin, d'après ce que je comprends des travaux des démographes. Donc à un moment donné, on va avoir un modèle périphérique qui va se retrouver pris en ciseaux, et c'est ce modèle périphérique qui alimente aussi ces fameuses zones qu'on a en périphérie. Donc je pense que, enfin, c'est pas pour jouer le prophète de malheur, mais les sociologues aiment bien aussi des fois que les choses se fassent en dehors des décisions parce qu'elles s'imposent, quoi. Voilà. Et souvent, finalement, les décisions, c'est ce que les choses nous ont imposé de décider. C'est un peu ce qu'on disait pour Haussmann, en fait. On dit finalement, c'est Paris qui a fait Haussmann, c'est pas Haussmann qui a fait Paris. Enfin, ça, c'est ce que disait un sociologue célèbre. Maurice Halbach. Il est très probable que le monde rural se revivifie. On en voit quelques indices. Mais là, encore une fois, difficile à généraliser. Parce que alors, là, dans le titre de l'ouvrage, j'avais repris le thème de la fin du village, qui est issu en fait, d'un ouvrage qui était sur le Luberon, sur une commune très touristifiée, très gentrifiée, dans la gentrification rurale dans le Luberon, très belle région. Et là, effectivement, on voit des éléments de fin du village, parce que viennent s'y implanter essentiellement des gens qui sont dans une logique de périurbain, etc. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, quand même, il y a des tentatives de renouveau, de renaissance, qui vont sans doute se... Il est difficile de savoir comment elles vont se traduire en fonction des qualités des territoires. Voilà, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut implanter, quel type d'économie, comment, est-ce que le télétravail peut avoir des effets, aurait des effets. On sent bien qu'on est à un moment où justement le cycle métropolitain est quand même très très critiqué, hein. Guillaume Faburel, là, qui a donné la préface à ce livre, a publié un ouvrage qui s'appelle « Les métropoles barbares », donc lui qui montre très bien comment, alors il y a toute une dernière partie dans son livre, comment il y a des projets de communautés intentionnelles, de tiers-lieux, etc. Il y a un tas de petites initiatives, de projets pour essayer de repenser qu'est-ce que signifie habiter dans le monde rural ou la campagne, ou en tout cas dans des territoires qui sont pas métropolisés. Voilà. Après, il faudrait vraiment... C'est ça qui est très difficile aussi dans les enquêtes en France, c'est qu'on a un instrument très très puissant et très très utile qui s'appelle l'INSEE, mais qui catégorise les territoires en petites villes, villes moyennes, en fonction du nombre d'habitants, du degré d'espacement des logements, enfin des maisons, etc. Et donc on a des caractérisations génériques qui sont pas toujours faciles à manipuler. C'est-à-dire que si on prend petite ville ou ville moyenne, Périgueux et Bergerac sont des petites villes et villes moyennes. Pour autant, leur trajectoire de développement, leur situation ne sont pas du tout les mêmes. Et on pourrait encore généraliser si on allait dans d'autres régions que le sud-ouest. Hein, si on va, je ne sais pas moi, dans le nord-est ou dans le sud-est, ce n'est pas du tout les mêmes pentes et trajectoires de développement.
Le sud d'Ordogne, et Bergerac en particulier, est très proche du territoire étudié par Olivier Chadouin.
Bergerac est concerné par ce que l'INSEE justement appelle le couloir de la pauvreté, qui est une diagonale qui va de la pointe du Médoc jusqu'à Agen, qui passe donc pas loin de Bergerac, Marmande, qui finalement renvoie à tous les territoires de production agricole et d'ouvriers agricoles, en fait, hein. Maraîchage, vitivinicole, etc. Et donc Bergerac, dans cet ouvrage, est pas directement analysée, mais est concernée parce que elle est pas loin de Sainte-Foy, et qu'il y a des échanges très réguliers entre Sainte-Foy et Bergerac, notamment des trajets domicile-travail. Mais aussi parce qu'on est dans ce fameux couloir de la pauvreté. Hein. Donc la Seine-Foy, c'est la commune qui a le triste record d'être la plus pauvre de Gironde, avec pas loin de 33% de bénéficiaires de RSA. Alors, je n'ai pas les données en tête là sur Bergerac, mais je crois que Bergerac n'est pas très, très, très doté non plus, quoi.
On doit à Olivier Chadouin un autre ouvrage sorti peu avant et qui n'est pas sans lien avec le thème de celui-ci.
Alors, l'autre ouvrage que j'ai publié cette année chez Parenthèse est très différent. C'est Sociologie de l'architecture et des architectes. En fait, c'est un travail de synthèse plutôt à destination des étudiants en sciences sociales ou en architecture ou en urbanisme qui fait le point sur un certain nombre de travaux que j'ai menés depuis plusieurs années sur le monde de la production architecturale. En fait, voilà. Donc en essayant de s'interroger sur les évolutions de cette profession, qu'est-ce que ça veut dire faire une sociologie de l'architecture? Est-ce qu'on consomme de l'architecture comme on consomme de la peinture? Est-ce qu'il y a une consommation culturelle de l'architecture? Voilà, ce genre de questions. Puis aussi d'essayer de comprendre, justement aussi, hein, il y a un chapitre où j'essaie de comprendre ce que le nouveau système de production métropolitain, que d'autres appellent parfois, comme mon collègue Gilles Pinson à Sciences Po Bordeaux, le modèle néolibéral, fait à l'architecture aussi. Voilà, on sait qu'il y a des constantes. Voilà, aujourd'hui, par exemple, on a souvent en tête, quand on réfléchit à la production du logement, qu'en gros, dans l'économie du logement, il y aurait le public et le privé. En fait, ça marche plus du tout comme ça, et l'opposition public-privé, elle a même plus tellement de sens, hein, parce qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple de l'Île-de-France, par exemple, c'est 55% de la production du logement social, donc on pourrait penser être produit par le public, qui est produit en vente, en ce qu'on appelle en VEFA, c'est-à-dire en vente d'état futur d'achèvement, c'est-à-dire qu'il est produit pour les bailleurs sociaux, qui sont des organismes publics, avec des fonds publics, par des entreprises privées comme Bouygues, comme Vinci, etc. Donc sur des mécanismes de production très particuliers, où finalement le commanditaire public laisse la main à une grosse entreprise privée qui est capable de produire du logement vite, à des coûts réduits, etc. Et le bailleur social n'est plus commanditaire d'architecture. Il est seulement l'utilisateur et le gestionnaire du bâti, ce qui fait que ça change beaucoup les choses pour les architectes, par exemple. C'est-à-dire que la place de la commande publique, elle est considérablement modifiée. On peut penser même aux évolutions de commandes comme les partenariats publics-privés. Si on prend le très beau stade nommé Matmut à Bordeaux, donc par les architectes Herzog et Demeron, les deux architectes suisses, c'est un équipement public produit en partenariat public-privé. C'est-à-dire que c'est Bouygues, d'ailleurs, hein, qui a été porteur du projet. Et la ville de Bordeaux en est locataire par je ne sais plus quel montage et quelles conditions pendant un certain nombre d'années. C'est le principe du partenariat public-privé. Donc là, pour le coup, encore une fois, sur des gros équipements publics, pendant longtemps, on se disait, voilà, la réussite en architecture, c'est de faire un bel équipement public financé par de l'argent public. C'est ça, la consécration. En fait, le marché de la production architecturale a complètement changé de ce point de vue-là. Voilà. Et ça, c'est très lié au modèle de production métropolitain aussi. Un autre effet lié au modèle de production métropolitain, ce n'est pas seulement l'effet économique, c'est le développement de ce qu'on appelle les star-architectes, hein, qui fait qu'il faut faire... C'est les effets de ce qu'on appelle, nous, le syndrome Guggenheim. C'est-à-dire qu'à un moment donné, plein de territoires et leurs élus se sont dit... la clé du développement, puisque maintenant on en a fini avec le développement industriel, c'était le cas de Bilbao, hein. Bilbao c'était la deuxième ou troisième ville industrielle d'Espagne jusque dans les années 80. Comment on fait un développement post-industriel? La voie royale a été de dire on va vers la culture, et un des éléments de la culture c'est de la manifester et de faire des bâtiments iconiques. Des bâtiments qu'on va pouvoir décliner sur des mugs, en pins, etc. Et qui redonnent une identité à une ville. Et du coup, on a fait Bilbao. Et donc, c'est ce qu'on appelle le syndrome Bilbao. C'est qu'après, tout le monde a voulu son Bilbao. Donc, il y a une espèce de course à la star architecture pour avoir les bâtiments les plus iconiques. Alors, à Bordeaux, nous, on n'a pas eu de chance, hein, puisque le nôtre, c'est, puisque c'est comme ça que le voulait Alain Juppé, d'ailleurs, avait dit, hein, je veux que Bordeaux ait son Guggenheim. Bon, il a eu la Cité du Vin, ce qui est une autre esthétique, pour la fois.
Et les friches commerciales de nos périphéries peuvent-elles devenir les œuvres architecturales de demain ?
Il y a un lien qui est aussi une critique sous-jacente du modèle métropolitain et de ses formes de développement, ça c'est sûr. Et il y a un lien, oui, aussi sur la question de déplacement de l'investissement des architectes. Et ça, c'est très clair, moi je le vois avec les étudiants et avec quelques courants aujourd'hui. Il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes architectes qui sortent de l'école, que moi je vois sortir, qui n'ont plus du tout envie d'un modèle de cette architecture. Il y a une espèce de volonté de retour à un modèle de... Alors certains appellent ça, c'est Patrick Bouchelin qui appelle ça comme ça, l'architecte aux pieds nus. Moi je trouve pas ça super beau, mais de modèle où l'architecte finalement est tout autant quelqu'un qui va produire des solutions pour construire, mais aussi accompagner des programmations ou une aide au développement sur les territoires. Alors l'école de Clermont-Ferrand fait beaucoup ça. Ils se sont vraiment mis là-dessus avec des enseignants et un directeur qui est vraiment reconnu aussi pour un investissement dans ce sens, avec l'idée que l'architecture, c'est pas que produire des bâtiments pour des usages, mais ça peut être aussi proposer des investissements sur des territoires, des processus de développement, d'associations des habitants, et qu'en fait on construit aussi toute une chaîne d'individus, d'acteurs qu'on va enrôler pour définir le projet, plutôt que de dire tiens, le maire commande une salle des fêtes, je fais une salle des fêtes. On dit non, la salle des fêtes exprime peut-être une demande qui pourrait être autre, aller plus loin, si on associe la population, puis tiens, là, pourquoi pas, il y a trois médecins qui cherchent à s'installer de l'autre côté, ici, il en manque, est-ce qu'on peut pas essayer de, à l'occasion de proposer une construction ou un travail sur le territoire, de proposer d'une certaine façon un travail de recomposition sociale qui va permettre du redéveloppement économique. Donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui, non seulement se développe, mais on voit très clairement aussi que beaucoup des jeunes, qui sortent de l'école, des jeunes architectes sont très tentés par ces modèles-là. C'est-à-dire qu'ils ont un peu tous en tête, alors on verra ce qu'ils en font dans le futur, mais la frugalité n'est pas un vain mot pour eux, quoi. C'est-à-dire qu'on voit, y compris les diplômes, si je regarde 10 ans en arrière, en gros, il fallait, pour les jeunes architectes, faire des diplômes où on montrait les muscles d'architecte, quoi. Il fallait faire des super gros bâtiments type MUCEM, grand musée, etc. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de projets plutôt très fins, portés sur les processus, sur des petits territoires, voire sur les territoires de leur enfance, des choses assez étonnantes qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps.
Et pendant les parutions actuelles, les études se poursuivent.
Je réfléchis finalement aussi dans le cadre de la préparation de mes cours, mais aussi d'une transition thématique, hein, un déplacement thématique de recherche sur les liens entre la notion d'habiter, sur laquelle on travaille en sociologie, c'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie habiter, mais au sens large, hein, parce qu'habiter, c'est pas seulement occuper un logement, c'est une manière d'occuper l'espace, le territoire, et une manière d'être au monde, comme se disent les philosophes, en fait. Voilà. Et donc, en ce moment, je réfléchis de manière plutôt théorique sur les liens entre les redéfinitions de l'habité et la notion d'anthropocène. Voilà. L'anthropocène étant l'idée que, pour la première fois dans l'histoire, les changements de notre planète sont pas liés à des aires géologiques, hein, éocène, pléistocène, etc., mais à l'action de l'homme, d'où anthropocène. Donc ça serait une nouvelle ère où c'est l'action de l'homme qui change la planète, en fait, son climat, enfin ce qu'on appelle le système Terre. Et donc l'hypothèse, c'est de dire que finalement, peut-être que la notion d'habiter telle qu'on l'a conceptualisée dans le long XXe siècle, hein, depuis les travaux souvent cités de Heidegger jusqu'à Bachelard, c'est finalement peut-être aussi une notion très moderne, où on saisit, dans laquelle on saisit la manière d'habiter comme une manière de dominer la nature et non pas de vivre avec la nature. Et donc c'est la notion d'anthropocène oblige d'une certaine façon à recomposer l'équilibre nature-culture, humain-non-humain. Enfin voilà, c'est des choses qu'on travaille, qui se travaillent beaucoup en sciences sociales actuellement. Donc moi j'essaie de les décliner sur la question territoriale avec cette notion d'habiter.